William Hornung, une fin tragique. Un jour, la banque coloniale de Geelong, en Australie, reçut la visite d'un individu masqué et armé jusqu'aux dents, qui demeura 10 minutes, puis ressortit, emportant une somme de 19 000 livres en billets et en or. Je jouais au tennis quand la nouvelle se répandit. La femme du directeur de la banque, qui était une amie de mes amis, arriva avec sa fille. L'une avait un air égaré, l'autre était muette d'horreur, consternée. J'entendis la mère articuler de ses lèvres pâles quelques paroles incohérentes. Je lus un trouble étrange dans les grands yeux bleus de la jeune fille. Comme la famille était à déjeuner dans l'appartement privé attenant à la banque, ne se doutant de rien, un employé fit irruption dans la pièce avec des allures de fou. Lui aussi était sorti pour son repas. En rentrant, il avait trouvé le comptable et le caissier inanimés et le coffre-fort dévalisé. Il n'y avait pas eu effusion de sang. Le revolver qui, en permanence, sous le comptoir, avait manié, mais en vain. Il n'était pas chargé. La malheureuse femme du directeur redoutait les conséquences probables du désastre. Son mari allait recevoir un blâme et être mis à pied, certainement. Je pris congé et, tout en marchant, je songeais à ce couple de vieillards qu'accablait la ruine. J'évoquais les clairs yeux de cette jeune fille qui, demain, accepterait la dépendance des gouvernantes. Et cette double répercussion du malheur m'occupait plus que l'immédiate catastrophe. Je trouvais sans peine le chemin de la banque coloniale et je n'eus pas besoin de le demander. Une foule bruyante stationnait devant les portes qui étaient fermées pour la journée. Là, je n'obtins aucune information nouvelle, sauf ce détail que le voleur avait une barbe noire. Le soir vint, sans apporter aucun éclaircissement au mystère qui hantait tous les esprits. Il était tard lorsque j'ai cru reconnaître un ancien camarade de classe. « Deeds !» m'écriai-je. L'homme se retourna et je n'hésitais pas à le reconnaître lorsqu'il me lança un de ses regards chargés d'insolence réfléchie qui, 10 ans avant, avait gâté la vie du directeur de notre collège. « Mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître, prononça-t-il, comme voulez-vous. Mais nous étions en classe ensemble, insistai-je, et j'étais votre cadet. Oh, si je m'attendais à vous revoir ici. Mais veuillez me dire votre nom, dit-il d'un ton las. » À ce moment, je me souvins tout à coup qu'il avait été expulsé du collège et je fus confus de ma maladresse. « Beware, » dis-je, un peu honteux de moi-même. « Ah, le scarabée !» s'écria Ditz d'un ton enjoué. Un instant après, il me serrait la main et riait de ma confusion. Je l'entraînai chez moi et nous causâmes. « Et que fais-tu ici ?» lui demandai-je. « Je suis employé dans une banque, » dit-il. « Pas dans la banque coloniale, » m'écriai-je. « Mais si, justement, » répondit-il avec un signe de tête. « Alors tu y étais aujourd'hui ? Quelle chance ! Je me suis creusé la tête toute la journée pour trouver une explication. « Non, je n'étais pas à la banque à cette heure-là, » reprit Ditz. « J'étais en train de déjeuner. Je ne peux te dire que ce que j'ai vu à mon retour. » Oh, le caissier était étendu sur le comptoir et le comptable formait une vague masse derrière lui. Tous deux avaient été frappés à la tête. Le coffre-fort était vide, grand ouvert, avec le soleil dardant à l'intérieur. « Ah, j'aurais bien voulu être là. Tu aurais résisté, toi ?» lui dis-je en considérant ses vigoureux membres d'athlète sous ses vêtements élimés. « Oui, tu aurais sauté sur l'individu, je te vois d'ici. » « Il y aurait eu là rien d'extraordinaire, » répliqua-t-il. « J'aurais eu tout à gagner, rien à perdre. »« Oh, sauf ta vie. Bon, c'est moins que rien. »« Allons, dites, n'espère pas que je vais croire cela. »« Crois-le ou non, cela m'est indifférent, » répondit-il. « Et d'ailleurs, ce n'est pas là la question. Donne-moi une cigarette, scarabée. »« Oui, tu parlais du vol. Ben, si tu veux bien, nous ne parlerons pas d'autre chose. » J'ai bien peur que le vieux Lanson ne sente sa situation. C'est lui qui est le directeur. Il aurait dû veiller à ce que le revolver de la banque fût chargé. Mais je jure, moi, qu'il l'était. Nous croyons tous qu'il l'était. Mais personne n'y avait regardé depuis des semaines, et tu vois qu'il ne l'était pas. On parle du fils de Ned Kelly. Bon, c'est une histoire qui ne tient pas debout. Non, non. Si tu veux m'en croire, il ne faut pas chercher si loin l'homme qui a dévalisé notre banque cet après-midi. Je soupçonne fortement quelques-uns de ces respectables habitants de Geelong d'être au fond de cette affaire. Ils sont si respectables. Il doit forcément se cacher quelques coquins parmi eux. Je tenterai d'obtenir la récompense promise quand on l'annoncera. Veux-tu tenter un coup ? Et moi, je t'aiderai, m'écriai-je. Je marcherai pour le plaisir, pour l'honneur, pour la gloire, et tu empocheras l'argent. Bon, fit-il laconiquement. Puis, posant ses mains sur mes épaules, il ajouta avec un sourire singulier. Et pourquoi pas t'associer à moi pour l'autre chose ? Tu manquais pas d'aplomb au collège. Mais quelle autre chose ? Demandai-je. Mais faire le coup, au lieu de découvrir le coupable. Dites, que veux-tu dire, diable ? Ce que je veux dire, ce que je dis, mon cher Scarabée, pas autre chose. À quoi sert d'être honnête ? Regarde-moi, vois mes manchettes dont je dois tailler les franges chaque matin, comme on taille ses ongles. Regarde mon pantalon que tu considérais tout à l'heure. Ces marques aux genoux sont les marques de l'honnêteté. Je suis aussi pauvre qu'un rat d'égout. Et tout cela, c'est par honnêteté. Mais je commence à en avoir assez. Pense à l'individu qui s'est esquivé avec une fortune ce matin, et puis pense à moi. Est-ce que tu voudrais pas être à sa place, non ? Parbleu, tu sais pas ce que c'est que la vie, Scarabée. Les imbéciles d'honnêtes gens comme nous l'ignorent toujours. Mais je vais changer ma chance. Si un seul peut jouer à ce jeu-là, deux le peuvent également. Et pourquoi pas trois ? Alors, Scarabée fait le troisième. Demain, nous dévalisons une autre banque. Mais tu plaisantes, dis-je en souriant à mon tour. Mais si je me lançais dans cette voie, Ditz, tu es bien celui que je préférerais avoir auprès de moi. Son visage prit soudain une expression sérieuse. « Veux-tu tenter un coup ? » fit-il. « Oh, je plaisante bien moi que tu ne penses. Ma vie est manquée, et mes cœurs. Je suis prêt à tenter quelque chose. Veux-tu en être ?»« Ah non, dis-je, je ne veux pas. » Alors nous nous regardâmes longuement dans les yeux. Puis il ramena le sourire sur ma lèvre aussi facilement qu'il l'en avait chassé. « Allons, c'est bon, mon vieux Scarabée, » dit-il. « Assez blagué !» Et il se perdit dans l'escalier. Il exerçait une espèce de fascination. C'était un talent que personne ne possédait comme lui et qui, au moment où j'écris ces lignes, fait encore mon désespoir. Il avait dans son caractère autant d'énergie que d'égoïsme. Chez lui, où la fin justifiait toujours les moyens, de plus, il avait en lui autre chose qu'il est difficile de caractériser, quelque chose qui séduisait tout en repoussant, qui forçait l'admiration tout en provoquant le mépris. Au collège, il avait joué d'une popularité extraordinaire et avait exercé une influence déplorable. Il était à la fois la bête noire des maîtres et l'idole des élèves. Et j'étais encore sous cette impression ancienne. Ce soir-là, poursuivi par l'idée de cette rencontre et de notre curieuse entrevue, je ne pus pas dormir. Je me dévêtis, mais je ne pus me décider à me mettre au lit. Je fumai une pipe sans satisfaction. Finalement, j'ouvris ma fenêtre. À ce moment, j'entendis un bruit qui éveilla mon attention, puis un autre qui me fit tressaillir. Le premier était le son d'un sifflet au loin. Un second sifflet avait répondu, qui m'avait fait sursauter, car il avait résonné juste au-dessous de ma fenêtre. Je me penchai au dehors. Un casque blanc, deux jambes blanches m'apparurent dans le rayon d'une lampe, puis s'évanouirent. Ma fenêtre était à peu de distance du sol. Je me laissais glisser jusqu'à terre et me lançais à la poursuite du casque et des jambes. J'étais moi-même nu-pied et en pyjama. J'aperçus mon policeman qui se sauvait au coin de la rue. Je m'élançai sur ses traces avec la vitesse du cerf et tout en courant, je m'amusais beaucoup de ma situation. Je faisais la chasse à un représentant de la police. Il ne pouvait pas entendre le bruit de mes pieds nus. Je pris facilement de l'avance sur lui et posai ma main sur son épaule avant qu'il ait pu soupçonner ma présence. Jamais de ma vie je n'oublierai l'expression de sa figure lorsqu'il s'arrêta, se retourna et saisit son revolver. « Oh, n'ayez pas peur, m'écriai-je, je ne suis pas l'homme que vous cherchez. Dépêchons-nous. Je vous accompagne pour voir ce qui va se passer. » Il me jeta un juron à la figure et se remit à courir. Je m'élançai derrière lui. Et pendant tout ce temps, le premier sifflet strillait toujours dans la nuit. Nous étions parvenus au faubourg. Le siffleur était maintenant très près de nous. Enfin, comme nous tournions l'angle d'une rue, nous rencontrâmes un autre gentleman casqué en pantalon blanc, en dissimulé dans l'allée d'une maison inhabitée. « Nous sommes en nombre, » dit-il en mettant son sifflet dans sa poche. « J'ai un agent posté sur la pelouse par derrière. La maison est vide. Oh, notre homme est pris dedans comme un rat dans un piège. Mais qui avez-vous amené avec vous, camarade ?»« Main volontaire, » dis-je. « Vous ne me refuserez pas de vous prêter main forte si l'occasion se présente. » Un instant après, je m'en allais rejoindre le troisième agent sur la pelouse derrière la maison, tandis que les deux autres y pénétraient par devant. Je ne sais pas combien de temps nous attendîmes, mais bientôt la lueur des lanternes derrière les vitres disparut. Les hommes étaient évidemment montés à l'étage supérieur, et dans l'obscurité nous perçûmes un bruit terrifiant pour moi. « Enfin !» dit mon compagnon en se glissant vers la porte de derrière, les bras ouverts. « Aide-moi à sortir de là !» Nous avions entendu les verrous glisser discrètement, mais nous étions destinés à éprouver l'un un désappointement, l'autre un inexprimable soulagement. La porte s'ouvrit. C'était le sergent sur lequel son subordonné avait failli se précipiter. Sans dire un mot, il nous fit signe d'avancer et nous conduisit dans la direction d'une chambre fermée auprès de la cuisine. Nous devions forcer la porte et emporter d'assaut la pièce. « Dedans, déclarait le sergent, nous trouverions notre individu. Nous ne le trouvâmes pas et de nouveau je respirais. Non seulement la chambre était vide, mais la fenêtre était solidement fermée à l'intérieur. Alors, tous les quatre, nous nous mîmes en devoir de fouiller la cave, mais notre homme n'y était pas et je commençais à me dire qu'il n'était pas nulle part dans la maison. » Aussi, tandis que mes compagnons perdaient la tête et se précipitaient vers les mansardes, je gardais mon sang-froid et décidais de rester en bas. La pièce dans laquelle nous avions fait l'invasion fut celle que je choisis pour attendre. Quel que fût l'endroit où se cachait le voleur, il n'était pas là. Jugez de ma stupéfaction quand je l'entendis se mouvoir sous mes pieds. L'épouvante me colla sur place, incapable d'appeler, incapable de songer. Mes yeux étaient fixés au plancher, épiant, à la faible lumière d'une bougie laissée là par un policeman, une planche qui bougeait. La planche se souleva, une figure malpropre se montra par l'ouverture. C'était celle de mon vieux camarade Dietz. « Oh, pour l'amour de Dieu !» dit-il à voix basse, « aide-moi à sortir de là !»« Dietz !» prononçais-je, impuissant à articuler aucune autre parole, je répétais, « Mais Dietz !»« Oui, oui !» dit-il avec impatience, « allez, pense à notre vieux collège, dis-moi où ils sont. Sont-ils partis ?»« Non, ils sont en haut. » « Mais quel diable de mystère se cache là-dessous » lui demandai-je d'un ton irrité. Ben, une erreur, une sale erreur. Ils m'ont pourchassé peu de temps après que je t'ai eu quitté. Alors, je suis entré ici, mais l'agent a pas osé m'y suivre seul. J'ai soulevé le parquet, je me suis glissé en dessous pendant qu'il sifflait à l'extérieur. J'ai remarqué une planche détachée en mettant le pied dessus, et cette chance-là m'a sauvé. Tu crois ? J'en suis pas certain, lui dis-je en m'approchant de la porte pour prêter l'oreille. Mais pourquoi te recherche-t-il ? Pourquoi auras-tu ? Pour avoir volé la banque alors que j'étais sorti pour mon lunch. A-t-on jamais vu une pareille imbécilité ? Mais si tu es innocent, pourquoi te conduire comme un coupable ? Pourquoi te cacher ? Allez, les voilà qui descendent. Reste où tu es. Tu n'aurais jamais le temps de sortir. À la lueur de la bougie, sa figure apparaissait très pâle entre les taches de poussière et de saleté. « Tu m'aideras, » murmura-t-il anxieux, en souvenir de notre bon vieux collège. Il insistait sur la corde sensible que je lui avais révélée moi-même. « Chut !» lui dis-je de la porte. « Laisse-moi écouter. »« Où sont-ils maintenant ?»« Ben, ils cherchent sur l'autre palier. »« Ils descendent et restent où tu es. »« Je reviendrai te voir. » Il disparut sans dire un mot et je me portai au-devant de mes compagnons dans l'antichambre. À ce moment, le ciel s'éclairait des premières lueurs du jour. J'étais toujours vêtu de mon seul pyjama et l'air était glacial. Lorsque les agents m'eurent remercié de mon assistance, j'allais me vêtir chez moi et une heure après, j'étais de retour. Il n'y avait plus trace de police dans la rue et je pus m'introduire dans la maison par une fenêtre ouverte sans être remarqué. Je me trouvais face à face avec Dietz qui avait un revolver à la main. Un instant, j'eus des doutes sur ses intentions, mais aussitôt, il remit l'arme dans sa poche et sourit comme s'il avait deviné ma peur. « Ne crois rien, Scarabée, c'est pas pour toi, mais tu m'as promis de m'aider. »« Ah, nullement, non, j'ai dit que je reviendrais te voir. Si je t'aide, ce sera sous certaines conditions. »« Ah, tu veux partager, ah, soit j'accepte. »« Où est l'argent? Je veux le tout. »« Oh, tu es trop gourmand, Scarabée. »« Sacrebleu, m'écriai-je, mais crois-tu que j'ai l'intention de me compromettre en me faisant prendre ici avec toi ?» Pour un peu, je te laisserai te débrouiller seul. Tu m'as entendu, je veux les 20 000 livres. Je les veux pour les rendre à la banque, alors je ferai pour toi ce que je pourrai, mais pas avant. Ses yeux noirs brillèrent comme du feu. Bon, c'est très bien, dit-il, mais je les ai pas ici, je les ai cachés. Ben, dis-moi où. Bon, je ne peux pas, je pourrais pas t'expliquer. J'accepte tes conditions. « Apporte-moi ce soir des vêtements de rechange et je te donne ma parole que tu auras le magot pour le reporter à la banque. »« Décide le vieux Lanson à me voir. »« Je lui dirai que c'était une plaisanterie, un pari que j'avais fait, enfin, tout ce que tu voudras. »« Il sera conciliant, il a ses raisons pour cela. »« Je n'ai pas perdu mon temps pendant que tu étais parti. » Puis il ajouta, en me mettant dans la main une lettre adressée à moi-même, avec une suscription au crayon. « Tiens, lis cela tout à l'heure. Peut-être auras-tu meilleure opinion de moi. Et pour l'amour de Dieu, ne manque pas de faire parvenir au destinataire les missives incluses. » Je promis. 2 heures après, je lisais la lettre. Je fus si révolté de son contenu et du ton sur lequel elle était écrite, que je n'ai pas l'intention de la reproduire ici. Or, elle avait au moins le mérite de la brièveté. Il disait qu'il s'était souvent, dans la vie, conduit d'une façon absurde à cause des femmes. Il y avait à Geelong 2 jeunes filles auxquelles il voulait adresser un adieu attendri. Il avait écrit 2 messages, mais avait omis d'y mettre des adresses parce que je ne devais pas connaître les noms. J'étais prié de déposer l'enveloppe triangulaire sous le larmier, derrière le pavillon du tennis club, à mi-chemin, entre l'entrée des dames et celle des messieurs. J'irai probablement au club cet après-midi-là. Mais il est de fait que je comptais m'y rendre. Il me recommandait de placer le papier à un moment où il n'y aurait personne pour me voir. Il me serait pour cela extrêmement reconnaissant. Il le serait encore plus si je voulais glisser la lettre carrée dans le plus gros livre sur un certain banc d'une église qui l'indiquait. Ma curiosité était éveillée. C'était de sa part un trait de génie d'avoir laissé en blanc les deux enveloppes. Parfaitement, je suis son père. Je jetai un coup d'œil sur ma montre, il n'était pas encore midi. Je me rendis à l'église directement. Je trouvai facilement le banc. Je profanai un gros livre d'hymnes en y déposant le billet carré et je ressortis en me dissimulant avec des allures dignes du personnage louche que j'étais devenu. L'église était déserte quand j'étais entré. Cependant, en sortant, je rencontrai un homme sous le porche. C'était une sorte de colosse à barbe grise qui tanguait en marchant. Comme il me croisait, je sentis que son regard était dirigé sur moi. Un instant après, j'eus l'idée de retourner sur mes pas pour voir s'il n'allait pas toucher à la lettre de Dietz. J'arrivais trop tard. Je le vis s'esquisser V du banc, tenant ouvertement dans ses mains la petite missive. Je l'attendis sous le porche. Il me semblait grandir de 6 pouces à chaque pas. « Pardon, monsieur, lui dis-je, vous avez pris là quelque chose qui ne vous était pas destiné. »« Comment le savez-vous ? » Ben, la lettre était destinée à une jeune fille. Le colosse me regarda de sa hauteur en fermant à demi les yeux. « Parfaitement, dit-il, je suis son père. » Et ce fut tout. Il passa devant moi, sans une parole de menace, sans un mot insolent, mettant le billet dans sa poche tout en suivant le sentier du cimetière. Et moi, j'enrageais de n'avoir pas plus de la moitié de sa taille pour pouvoir me jeter sur lui. Poussé encore par la curiosité et sans me laisser décourager par le fiasco que m'avait valu le premier billet, je plaçai le second à l'endroit voulu et cela 5 minutes après avoir pénétré sur le terrain de tennis. Puis je jouais 2 parties, mais mon jeu était plus mauvais encore que d'habitude. Je ne quittais pas de l'œil la porte d'entrée et je suivais du regard chaque nouvelle arrivante, cherchant à distinguer une rougeur sur ses joues. Je ne vis rien qui fût pour moi une indication. Cependant, quand j'allais prendre mon veston moins d'une heure après, la lettre triangulaire avait disparu. Je ne savais qui soupçonner. Chaque jeune fille présente parlait de Dietz avec l'intérêt d'une curiosité innocente. Cela aurait pu être n'importe laquelle. Toutes me regardaient comme si elles savaient de quel sang coupable mes mains étaient rougies et celles auxquelles je fus présenté me torturèrent sans répit avec leurs questions. Jamais, je le jure, un homme ne fut placé dans un aussi visible embarras. Pourtant, qui pouvait sonder la profondeur de mon trouble ? Seule une jeune fille s'abstint de l'augmenter. C'était président Miss Enid Lanson. Jamais le nom de Dietz ne fut prononcé entre nous deux. Parfois, elle et moi, nous étions seuls quelque temps, parcourant le terrain, ramassant des balles, nous asseyant sur des bancs inoccupés. Les yeux de Miss Enid étaient chargés d'une expression douloureuse. Le désespoir qui s'y lisait était navrant. C'est que la cause de sa tristesse était bien grave. J'espérais au moins que la lettre triangulaire n'était pas dans sa poche. Cependant, elle était arrivée de bonne heure, elle avait mis ses souliers de tennis et n'avait pas joué une seule partie. Je m'étudiais à maintenir notre conversation sur un ton indifférent plutôt enjoué et je m'étais mis en tête de faire sourire ses jolis yeux bleus. Et j'ai honte d'avouer que je causais si bien que je les emplis de larmes. « Mais vous avez bien des ennuis, » dis-je brusquement. « Que se passe-t-il à la banque ?»« Mon père a été appelé à Melbourne par le directeur, » répondit-elle d'une voix sourde. « Ma mère, votre mère, est malade et a dû s'aliter, » dit-elle en pleurant. « Oh, monsieur Bauer, c'est affreux, c'est affreux. Vous vous demandez pourquoi je suis ici ?» « Oh, j'ai des raisons d'y être, je vous assure. Dites-vous bien cela, et rien de plus. » Une rage muette, une rage folle me montait au cœur contre l'auteur de tous ces malheurs. Si j'avais pu à un moment faire un pacte avec Dietz, les larmes de cette charmante fille m'auraient maintenant dicté mon devoir. J'alléguais une nuit d'insomnie et quittai bientôt Miss Lanson. Le soir, je retrouvai Dietz caché dans la cave de la maison inhabitée, évidemment très changé par sa longue journée de réclusion. Il me dit que ses heures lui avaient fait l'effet d'une semaine entière. Il paraissait accablé, découragé. « Allons, lui dis-je, montre-moi où est l'argent et fais ce que tu m'as promis. J'espère que tu ne vas pas faiblir. » Il esquissa un rire amer. « Oh, grand Dieu, non. As-tu déposé les lettres que je t'ai dit ou j'ai dit? T'es-tu procuré la barbe ?»« J'ai fait les deux, » répondis-je en négligeant de raconter l'incident de l'église. « Oui, voici la barbe. Je l'ai achetée chez un... »« Oh, parbleu, mais c'est exactement ce qu'il me fallait !» s'écria-t-il avec enthousiasme. « Allez, donne-moi la main pour sortir, scarabée !» 5 minutes après, il était éclatant de blancheur de la tête aux pieds. Sa figure était rendue méconnaissable par la barbe blonde. Avec cela, nous étions prêts à partir. Nous eûmes de la chance pour effectuer la sortie. Aucun policeman en vue. Nous dirigeâmes vers la plage, très reconnaissants envers notre bonne étoile. « Maintenant, » dit Dietz, « suis-moi le long de ce quai. »« Et pourquoi ?» demandai-je inquiet. « Pourquoi ? Tu vois cette goélette là-bas à gauche ?»« Eh bien, je ne t'ai pas dit encore. C'est là qu'est le magot, à bord du Faucon, où on m'attend. »« Oh, je n'irai pas, » dis-je énergiquement. « Tu es insensé, Dietz. Va chercher l'argent, je reste où je suis. » « Mais mon ami, une seule personne ne peut pas le porter, il y a des centaines de livres en or. »« Alors, amène ton complice. Je vois à 100 mètres un homme qui vient de ce côté. Est-ce lui ? Je vais l'appeler. »« Non, 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 c'est moi qui vais l'appeler. » Il lança un appel discret. L'homme arriva aussitôt. J'étais surpris qu'il eût entendu, surpris aussi et intrigué de reconnaître vaguement son allure et sa démarche. Ce n'est que lorsqu'il vint serrer la main de Dietz que je reconnus mon volumineux adversaire de l'église. « Oh, au secours !» m'écriai-je, pris d'un terrible pressentiment. « Bon, quoi bon tout ce bruit, mon vieux ?» dit Dietz en jetant son bras autour de mon cou. Alors je sentis la pression sur ma bouche de quelque chose de moite et de froid. Mes sens, mes forces s'évanouirent. Les mâts, les agrès des vaisseaux s'envolèrent vers les étoiles comme dans une silencieuse explosion. Puis je n'eus plus conscience de rien. Je me réveillai entre 2 draps blancs dans une étrange petite couchette marine. J'avais été dépouillé de tout vêtement et cependant traité avec des égards évidents. Mes habits étaient correctement posés sur des porte-manteaux. Ils se balançaient doucement de droite et de gauche ainsi que le chandelier et les rideaux. J'étais à bord du Faucon, et le Faucon était en pleine mer. Je m'élançai hors de ma couchette. Je regardais dans le passage. Il m'avait emprisonné, sans doute, dans une cabine du pont. Certainement, la porte devait être fermée à clé. Je voulus m'en assurer. Elle était ouverte. Dans le salon, j'aperçus des nappes blanches et de l'argenterie. Je refermai la porte d'un geste plus calme que je ne l'avais ouverte. Je compris que j'étais entre les mains d'un coquin plein de sang-froid et de ruse. Mes seules armes contre lui étaient le sang-froid et la ruse. Je me vêtis et sortis sur l'habitacle. C'est là qu'il me rejoignit, posant la main sur mon épaule. « Oui, est, sud-est, » dit-il. « Nous voguons vers Rio Grande. Te voilà au courant. Dis-moi, scarabée, mon vieux, t'as été bon pour moi, je veux te traiter de même. As-tu cru vraiment que j'allais faire ce que nous disions ? Ah, mon brave, mais comment as-tu pu t'imaginer cela ? Regarde un peu, scarabée. Le yacht est un yacht très connu. Watson est un yachtman très connu aussi. » Il était à Melbourne pour détourner les soupçons le jour où j'ai fait le coup. Il marche pour sa part. Pourquoi veux-tu pas faire de même ? Tu l'as bien gagné, ta part. Mais je croyais que tu devais me traiter avec ménagement, dis-je d'un ton las. Toute la fortune est à bord? Tout, jusqu'au dernier sou. Et qui est-ce, Watson? Il me présenta au monstre marin qui répondait à ce nom, et comme, au cours de notre brève conversation, je jugeais bon de ne pas dissimuler mes véritables sentiments, « C'est bien, » dit Dietz furieux. « Tu en as dit assez comme ça, et à l'avenir, je te prierai de tenir ta langue. » Et le second roar dans l'autre cabine, « Prends garde de ne pas perdre la tienne. Prends bien garde que le repas que tu vas faire soit le dernier, qu'il ne te soit donné de prendre avec nous. » Après le dîner, je fumai une pipe dans les hunes et en vain j'interrogeais l'horizon pour y apercevoir la fumée d'une cheminée. Je ne vis que quelques voiles insignifiantes et elles étaient sous le vent. La mer étalait sa grande nappe bleue avec au centre la goélette, pareille à une fourmi blanche. Dietz et le capitaine causaient ensemble. Puis je vis Dietz qui rentrait. Son regard était sombre. Il était encore plus sombre quand il reparut. Au lieu de rejoindre le capitaine, il vint dans les hunes où j'étais. Je compris que nous allions avoir une explication entre le ciel et l'eau. Mais Dietz passa auprès de moi sans me dire un mot et monta plus haut. Il avait un télescope qui sortait de sa poche. Je crus bon de lui abandonner la place et le laisser parcourant l'horizon. Cependant, ma vue, qui n'était pas mauvaise, n'avait discerné aucune voile, aucune fumée du côté du vent. Alors pourquoi ce changement chez Dietz? Fort intrigué, je descendis sur le pont et me dirigeai vers la cabine. Je compris tout lorsque, en y rentrant, je vis qu'il s'était assis à la table. « Ah, Miss Larson !» m'écriai-je. « Oui, c'est moi. Il m'a dit que je ne devais pas vous voir. Allez-vous-en. Je vous en prie, allez-vous-en, avant qu'il revienne. »«
Mais m'en aller, » m'écriai-je, « ne pas vous voir. Mais je vous verrai. Je resterai avec vous jusqu'à ce que je sois traîné hors d'ici par la force. C'est-à-dire, à moins que vous ne soyez ici de votre propre consentement. » Dans ce cas.
Non, non, s'écria la jeune fille. J'ai été amenée par trahison, par d'abominables mensonges. Oh, rien n'aurait pu me décider à en venir là.
Bien alors, nous sommes sur le même bateau avec tous deux l'espoir d'une vengeance, dis-je en m'asseyant de l'autre côté de la table. Allez, dites-moi rapidement comment ça t'est arrivé.
« Oh, par où dois-je commencer? Oh, il y a tant de choses à dire. Bon, j'essaierai d'être brève. Il y avait un an environ qu'il était à la banque. Oh, vous le connaissez peut-être mieux que moi. On dit que vous avez été au collège ensemble. Vous devez savoir quelles sont ses qualités, monsieur Beaver. Je veux dire celles de ses qualités qui peuvent séduire une femme. Alors elles me séduisirent. Je fus insensé. Vous avez dû entendre parler de moi, J. Long. Eh bien, tout était vrai. Oh, mais cela ne datait pas d'hier ni d'avant-hier, non, mais du début même de nos relations. Il y a longtemps que je me suis ressaisi, mais toujours il m'a fasciné. Vous le connaissez, vous me comprenez. Eh bien, quand la banque a été dévalisée, j'ai su qu'il était le coupable. Oh, je ne peux pas vous dire comment, j'en ai eu la certitude, mais je l'ai vu, je l'ai su. Sa voix n'était plus la même. Et de cette voix altérée, il m'a fait la cour. Eh bien, j'ai été à son appartement. Il déjeunait chez lui tous les jours, j'ai vu sa propriétaire. Il avait déjeuné chez lui, comme d'habitude, et avait dit qu'il sonnerait quand il désirait le dessert. Il sonna, en effet, mais plus tard que de coutume, voilà tout. Sa chambre était à l'arrière de la maison, au rez-de-chaussée. La propriétaire demeure sur le devant. Il y a peu de temps, c'était le contraire, le changement avait eu lieu sur sa proposition.
Il lui fit promettre de tenir les stores baissés dans la cuisine et les fenêtres fermées, à cause des mouches, disait-il, et du soleil au milieu de la journée. Il lui faisait faire ce qu'il voulait. Maintenant, écoutez. Le jardin de la banque est proche du jardin de la propriétaire. J'ai trouvé de la terre sur le rebord de la fenêtre. C'était l'après-midi où tout le monde était affolé. Lui était à la banque. Je partis en faisant promettre à la femme de ne rien dire, mais elle manqua sa promesse ce soir même, et c'est ce qui souleva la rumeur.
Couchez-vous par terre, couchez-vous.
Cependant, j'écrivis un mot à M. Dietz, lui disant que je savais tout, refusant de le voir, mais lui affirmant que s'il voulait bien mettre une lettre à l'endroit où il avait déposé d'autres missives, ma mère ne pouvait pas le souffrir. S'il voulait bien me dire où était l'argent, personne ne saurait jamais qu'il y avait touché. N'oubliez pas, Monsieur Beaver, que je l'avais aimé. Et que pensez-vous qu'il m'ait répondu dans cette lettre que vous avez portée au pavillon du tennis club? Que si je voulais bien venir sur la plage à 10 heures du soir, il me dirait où était caché l'argent. Je m'y rendis. Il m'indiqua que l'argent était enfoui dans les rochers à Queen's Cliff. Lui a laissé échapper sur le faucon où nous sommes et il me débarquerait à Queen's Cliff. Et me montrerait la cachette parce que son intention était de prendre l'or seulement. Il n'osait pas emporter les valeurs. Mais c'était justement les valeurs qui importaient à la banque et à mon père. Elles représentaient les 9/10 de la somme volée. Oh oui, je sais que j'étais bien sotte de croire à une seule de ses paroles. J'aurais dû le faire mettre en prison dès le début. Mais j'ai la punition que je mérite. Chez moi, on ne me pardonnera jamais. Leur vie est brisée pour toujours. Jamais ils n'oublieront cela. Et dire que moi, je suis ici, ici.
Elle s'affaissa, épuisée, et je jetai les yeux vers la porte. Dietz était là, la figure dans l'ombre. Il me fixa et sa bouche esquissa un spasme nerveux. Maintenant, plus que jamais, je pus apercevoir dans l'éclat de ses yeux quelques soucis étranges. Et au lieu de m'ordonner de sortir, il nous ferma brutalement la porte. Et Ned Lanson découvrit son visage qu'elle avait plongé dans ses mains. Nous reprîmes la conversation interrompue. Miss Lanson était en train de me conter comment son ravisseur avait eu l'audace de lui dire qu'il était déterminé à l'épouser, par reconnaissance, lorsque la porte s'ouvrit de nouveau. Dietz s'avança. Oh, il ne nous regarda pas, mais prit sur l'équipage un fusil à répétition et allait ressortir sans proférer une parole quand Miss Dietz s'écria terrifiée. Mais qu'allez-vous faire de cette arme ? Il s'arrêta sur le seuil, remplissant l'embrasure de la porte de sa large carrure. Bien gros oiseau dans nos eaux, une autre espèce de faucon, fit Dietz, en affectant un air léger. Je vais tirer dessus, voilà tout.
Toujours cruel, dit la jeune fille, comme nous entendions plusieurs détonations successives.
Je voulus sortir. La porte était fermée à clé. J'allais rejoindre mon cierge lorsqu'une balle, traversant la cabine, passa au-dessus de la tête d'Enid et se serait fatalement logée dans son crâne si j'étais resté une minute de plus à l'endroit où je m'étais tenu pendant des heures.
« Oh, le lâche ! Le lâche !» s'écria la jeune fille.
Au même moment, un autre coup de feu s'entendit.
« Mais nous sommes chassés » criai-je. « Couchez-vous par terre ! Couchez-vous !»
Nous nous étendîmes l'un et l'autre sur le sol. On entendait maintenant distinctement des voix qui nous hélaient. Mais Dietz ne répondait qu'avec son Winchester. D'après une série précipitée de coups de revolver, oh, ça devait être celui du capitaine, je compris que nous étions suivis de très près. Ainsi la chasse durait depuis des heures, et c'est pourquoi on nous avait laissés, Miss Enid et moi, fort tranquilles et sans dîner. Mais ce qui me stupéfiait le plus, c'était la bonne discipline qui régnait à bord.
Ce devait être un voilier qui nous poursuivait plutôt qu'un vapeur. Mais je ne pouvais pas regarder dehors pour m'en assurer. Ma vaillante compagne ne consentait à demeurer à sa place que si je faisais de même. Ses yeux bleus m'adressaient un de ces regards qui vous donneraient du courage à votre dernière heure. La fusillade se poursuivait de part et d'autre sans interruption. Puis nous entendîmes une chute lourde sur le pont. Le revolver ne tirait plus. « Bon, ce n'est pas dit, » se prononçai-je en secouant la tête. « Mieux vaudrait que ce fût lui. »« Ne dites pas cela, » répondit ma compagne, « ce serait trop horrible. Il ne faut pas qu'il meure. Il a de remarquables qualités, vous le saviez bien. Il a un rôle viril à jouer dans le monde. » Comme elle achevait ces paroles, la serrure de la porte tourna, et Dietz lui-même nous apparut, qui nous examinait les bras croisés. Oh, nous devions faire une piètre figure, couchés sur le sol de la cabine. Dietz était rave et défait, mais en nous voyant, il esquissa un sourire sardonique. « Levez-vous, dit-il, on ne se battra plus. Watson est tué. » « J'ai demandé quartier. Votre père sera à bord dans un instant, Enid. »«
Mon père ?»«
Oui, » dit Dietz, calme, les bras toujours croisés. « C'est un contre de pilote, le premier bateau qu'on a trouvé, je suppose. »« La police et votre père sont à bord. Un mot avant qu'ils arrivent. »« Il fut un temps où volontiers vous seriez jeté dans mes bras, Enid. Je suis perdu. » « Venez-y maintenant !» Il ouvrit largement ses deux bras en disant cela. Un regard moitié moqueur, moitié sublime, éclaira son visage, et sa veste, à l'endroit que cachaient ses bras un instant avant, je vis une traînée de liquide sombre qui coula jusqu'à terre. Avant que j'aie pu me porter jusqu'à lui, il tomba comme une masse sous nos yeux. Dietz était mort. Watson était mourant. Deux agents qui se trouvaient sur le cotre étaient gravement blessés. Avec leur lugubre fardeau, les deux bateaux se dirigèrent ensemble vers le port de Melbourne. Il était minuit quand nous aperçûmes les lumières. Le directeur de la banque et moi, nous étions ensemble sur le pont du cotre. Sa fille était en bas, mais il ne cessait de s'inquiéter d'elle. L'argent appartenait à la banque, me disait-il, et il était sauf. Mais sa fille était son bien, et quel scandale resterait attaché à son nom. Je tentais de soutenir le contraire, mais le vieillard ne voulait rien entendre. « Ne me dites pas cela, » murmurait-il, « je connais le monde. Enid va débarquer avec quelque chose comme une tache sur son nom. Ben »« Alors ce ne sera pas pour longtemps, » répliquai-je. Nous étions décidés à ne pas vous le dire avant d'être à terre, mais, si vous le voulez bien, votre fille et moi, quand nous quitterons ce bateau, nous serons fiancés.